autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, autour de notre première table ronde de rentrée. C'est encore Covid oblige par roulement que l'on va se demander comment la science infuse depuis les laboratoires et jusque dans vos rédactions respectives. Comment la science va-t-elle se diffuser cette année qui sera forcément spatiale et intersidérale, comme nous allons le découvrir avec Philippe Pageot de Science et Avenir la Recherche, Philippe Hénaréchaus de Ciel et Espace et Hervé Poirier d'Epsilon, avec qui nous ferons aussi le point sur les espoirs et les avancées dans la lutte anti-paludisme. Nous en profiterons aussi pour relayer un appel à candidature pour un tout nouveau prix de santé publique à destination des professionnels de santé des pays du Sud, le prix Henri Boulard, dont nous nous ferons l'écho, avant de nous intéresser au son du vivant avec Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie et au syndrome d'imposture avec Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho. Et bien sûr, comme chaque mois, vous le savez, chers amis auditeurs qui vivez loin d'ici, vous pourrez remporter quelques numéros de tous ces magazines scientifiques de septembre. Il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue. Bienvenue dans l'espace, le nouveau Far West. Ça, c'est la une d'Epsilon. Bonjour Hervé Poirier.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir pour la première fois dans notre studio. Et comme l'espace est aussi invité en cette rentrée à la une de Science et Avenir, nous allons aussi explorer l'espace avec vous, Philippe Pageot. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde.
Mais aussi évidemment avec Philippe Hénaréchaus de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être en ligne par téléphone avec nous. Et oui, c'est chacun son tour, en vrai, en studio. Avant de partager l'enquête sur les mondes habitables, notre système solaire dans Ciel et Espace, je vais vous demander, Philippe, mais je vais aussi le demander à l'autre Philippe, ainsi qu'à Hervé, de nous dire un peu ce que vous attendez de cette rentrée. Alors, on l'a dit, forcément un peu spatiale et intersidérale. Ça, c'est votre domaine, Philippe Hénaréchaus. Mais qu'attendez-vous là pour 2021-2022 ?
Ah ben pour cette fin d'année, il y a des lancements très intéressants et très attendus. On verra s'ils partent à l'heure, hein, mais il y a par exemple au mois de maintenant, c'est sans doute vers mi voire fin novembre le lancement du prochain grand télescope spatial. James Webb Space Telescope. Mm-hmm. D'ailleurs, on ne sait pas s'il va garder son nom. Il y a toute une polémique sur la nomination. Mais enfin, en tout cas, c'est un télescope optimisé pour l'infrarouge qui fait 6,50 m de diamètre et qui sera dans la coiffe d'une fusée Ariane 5. Mm. Et ce télescope, il a une histoire quand même assez chaotique puisqu'il a plus de 13 ans de retard par rapport au programme initial. Il a coûté 10 milliards au lieu de 800 millions initialement. Mm-hmm. Et donc, on en voit le bout et on attend beaucoup en matière d'astrophysique. Il faut attendre plusieurs mois avant qu'il soit opérationnel si tout se passe bien après le lancement. Mais disons que dans le courant de 2022, on devrait enfin avoir les premières lumières de ce télescope qui va explorer les confins de l'univers. Et puis, fin 2021, si le calendrier est tenu, là encore une fois, oui, par la NASA, on devrait assister au premier lancement de la fusée géante SLS, Space Launch System, avec la première mission sans équipage Artemis 1, du nouveau programme lunaire américain. Si cette mission part bien en décembre, comme prévu, ça veut dire que ce programme sera lancé et que la NASA préparera la mission Artemis 2, cette fois avec des astronautes à bord, pour aller faire le tour de la Lune, ce qui n'a pas été fait depuis 1972. Donc voilà, c'est très spatial et astronomique.
C'est ça, et on espère la Lune pour fin 2021-2022. Alors Philippe Pageot, pour Science et Avenir la Recherche, vous attendez quoi comme nouveauté cette année ? Vous gardez l'œil ouvert et le bon, notamment sur des avancées, j'imagine, médicales.
Tout à fait, effectivement, l'ARN messager, là, ces fameux vaccins, on commence à être beaucoup, de plus en plus vaccinés, et c'est une avancée absolument remarquable. Et maintenant, on commence à faire des essais, à imaginer pouvoir faire un vaccin contre le palud et contre le VIH. Et il va y avoir des essais qui vont avoir lieu en fin d'année, début de l'année prochaine. Notamment pour le PALU, il devrait y avoir un centre ARN-M messager qui va s'installer en Afrique, justement pour...
On va en reparler là, parce que vraiment, effectivement, ouais. Il y a des espoirs, mais il y a aussi beaucoup de craintes autour du PALU, et pas seulement autour de ces vaccins, qui sont effectivement ARN très, très prometteurs.
Et puis sinon, vous savez que j'ai un intérêt particulier pour les mathématiques.
Et oui.
Voilà. Et il y a plusieurs choses qui se profilent, notamment...
Année mathématique à venir.
Année mathématique, oui. Donc, d'abord, à la fin de l'année de septembre, le 27 et le 28 septembre, on fêtera les 100 ans de l'Union mathématique internationale, mmh. qui a été créée justement à Strasbourg il y a 100 ans. Et c'est justement à Strasbourg qu'aura lieu une petite conférence pour célébrer ce centenaire. Et l'année prochaine, durant l'été, au mois de juillet, en fait, entre le 6 et le 14 juillet 2022, il y aura à Saint-Pétersbourg la grosse conférence des mathématiciens, la conférence internationale des mathématiciens, qui a lieu tous les 4 ans. Donc c'est un gros raoult avec énormément de monde. Et c'est là que sont notamment
décernés les
fameux médailles Fields, ces prix Nobel qui n'ont pas des prix Nobel.
Mathématiques. Donc tous les chercheurs, les grands chercheurs en mathématiques.
Des milliers et des milliers de chercheurs qui seront là.
Se donneront rendez-vous en juillet à Saint-Pétersbourg. Hervé Poirier à Epsilon, nouveau magazine d'actualité scientifique remarquable et remarqué. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez pour votre première rentrée, finalement?
Nous, on va suivre avec une attention particulière la COP26 qui aura lieu en novembre mm-hmm. à Glasgow. Mm-hmm. Alors, c'est quand même la grande célébration des mauvaises nouvelles, en général. Ouais. Mais on va essayer on y attend avec une certaine impatience l'émergence d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire...
Une bonne nouvelle pour le climat.
Ouais, une bonne nouvelle pour le climat, c'est surprenant, non? C'est-à-dire la mise en place, la discussion au niveau politique d'une sorte de police du méthane. La technologie, aujourd'hui, permet de vérifier mm-hmm. un peu partout dans le monde les grandes fuites de méthane, voire l'ensemble des émissions de méthane de chaque pays. Et cette technologie qui est quasiment mûre aujourd'hui, avec encore quelques lancements de satellites qui vont être lieux l'année prochaine pour que l'ensemble du monde soit couvert, permettra à chacun, de façon transparente, avec des données disponibles pour tous, de vérifier les émissions de chaque pays sur le méthane. C'est plus compliqué pour l'instant pour le CO2, ça sera pour les années suivantes, mais la mise en place les promesses vont être affichées, mais il y aura un moyen de voir de façon transparente si elles sont tenues. Et il y a l'idée que ce cercle vertueux pourrait avoir un sacré impact sur le réchauffement dans les décennies à venir. Donc on attend une bonne nouvelle de la COP26.
Avec de la justice climatique internationale, incroyable, ça promet. On est dans l'impatience, avec jeu de mots inclus. Et on commence tout de suite, alors là, par un vrai espoir un peu fou. La fin du PALU, c'est l'enquête d'Epsilon de ce mois de septembre. Nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, évidemment, chers amis auditeurs. Alors, pour vous préparer à mettre le PALU KO, on espère, hein, c'est pas aussi sûr que ça. Allez, on écoute tout de suite KO PALU, c'est signé par un collectif d'artistes camerounais, X-Maleya, Ciné, Grâce Deka, Duke Z et Kate sur RFI. PALU, Maria, no KO. Moses, regardez-moi, va à l'hôpital pour recevoir gratuitement des médicaments pour te protéger. Ainsi que ton bébé du paludisme.
Hey, it's time to educate you.
KO PALU et Malaria Must Get Out. Ce n'est pas que le vœu pieux d'un collectif de chanteurs camerounais. Depuis qu'en cette année 2021, la Chine et le Salvador ont officiellement annoncé avoir éradiqué le paludisme, c'est un espoir un peu fou qui renaît du côté de l'OMS. Hervé Poirier, même si du côté des pays africains, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, votre journaliste Alexandra Pienne, dans Epsilon, a mené l'enquête.
Oui, cette année, c'est la Chine et le Salvador. L'année dernière, c'était l'Algérie et l'Argentine. Mm-hmm. L'année prochaine, ça sera donc la Turquie, l'Iran, l'Égypte, qui seront déclarés malaria-free, débarrassés de ce virus qui hante ces territoires depuis la préhistoire et qui est une des principales causes de mort enfantine.
Donc ça, c'est une grande nouvelle pour l'OMS, et du côté de l'OMS, évidemment.
Bien, évidemment. On a divisé par deux le nombre de morts en 20 ans. Mm-hmm. Il y a une trentaine de vaccins. Philippe Pajot parlait des vaccins ARN qui sont très prometteurs, qui sont en cours de développement un peu partout dans le monde. Autant de signes que le combat contre le palu, il donne des résultats assez impressionnants. Au point qu'on s'est interrogé, alors est-ce que c'est la fin du palu ? Alexandra est partie en enquête assez approfondie, a rencontré un grand nombre d'experts qui, évidemment, ont salué les exploits. C'est un exploit d'éradiquer le palu dans un pays, tellement. Donc il faut faire attention à l'insecte qui est le vecteur, aux parasites et ensuite à la maladie pour traiter ceux qui sont malades. Donc c'est sans doute un des combats les plus complexes que la science doit mener. Et on a été très impressionnés par les succès, mais l'enquête approfondie montre qu'il y a aujourd'hui des vrais défis à relever pour atteindre l'objectif de l'OMS, qui est l'éradication en 2030.
Éradication totale du palu en 2030, objectif de l'OMS. Ouais, là, ça paraît un peu.
Les experts sur le terrain disent ça va demander un changement, en particulier l'accès aux soins en Afrique.
Bien sûr.
Qui est le ressort fondamental de la lutte. Donc le défi est immense. Les succès qu'il y a eu depuis 20 ans, il y a eu en fait trois périodes. Au début des années 60, on s'est rendu compte que le fléau, c'est le premier plan mondial contre le palu avec chloroquine et DDT. Mm-hmm. Gros succès. Mais à la fin des années 90, résistance au DDT, résistance à la chloroquine, et le palu a reflambé. L'artémisinine, une plante chinoise, s'est révélée un traitement très efficace. Et les moustiquaires qu'on entendait dans la chanson, les moustiquaires imprégnés ont fait que en 20 ans, il y a eu énormément de pays qui ont pu éradiquer le palu. Aujourd'hui, il y a la résistance à l'artémisinine qui commence à apparaître. Mmh. Et donc, il faut développer de nouveaux traitements. Et on bute sur les pays les plus pauvres qui n'ont pas un système de santé qui permet d'éradiquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'en une journée, l'enfant malade soit traité. Et qu'en une semaine, l'ensemble de l'environnement soit...
Il faut aller très vite et à tous les niveaux de la chaîne, c'est-à-dire moustiquaire imprégné, protection, mais ensuite un vrai service de santé publique efficace et rapide, c'est ça.
La Chine a impressionné tous les experts par la façon hyper efficace dont ils ont pu le mener, mais il faut le dire, avec une violence politique.
Bien sûr.
Mais on sait que cette stratégie, elle marche. Les experts pensent qu'il faut développer, évidemment. Or, l'arme absolue, c'est le vaccin. On ne sait pas si on pourra. On n'a jamais fait de vaccin contre une bébête aussi macroscopique que le Plasmodium qui est. Donc, les vaccins, pour l'instant, c'est principalement contre les virus. Contre un parasite comme ça, ça n'a jamais été fait. L'ARN messager dont parlait Philippe Pagé est une arme tellement puissante que ceux qui le développent ont un espoir. Ceux qui, sur le terrain qu'on a rencontré disent ne passons pas des espoirs trop fous là-dedans. On verra.
C'est ça. Et vous avez d'ailleurs interrogé une spécialiste, une entomologiste de l'IRD, Sylvie Manguin, je crois, qui dit que sur le continent africain, il faut penser à de nouvelles stratégies, mis à part le vaccin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans tous les... couvrir tout le champ et ne pas espérer que des vaccins. Mais le grand espoir, c'est quand même le vaccin.
Non, le vaccin est un des espoirs. Ce serait l'arme absolue.
C'est ça.
Mais il faut développer évidemment une pratique sur le terrain. C'est-à-dire, un des problèmes qu'elle a repéré, Mme Mangin, c'est les pratiques. C'est-à-dire, regarder la télé le soir, tous ensemble dehors, ça, le moustique s'est adapté et ne pique plus la nuit. Et maintenant, il pique pendant les séances télé. Le moustique est un sacré adversaire. Donc il y a des techniques OGM d'essayer de lutter contre ce vecteur-là. Mm-hmm. Il y a des nouveaux traitements qu'il faut développer parce que les premières résistances en Afrique et en Asie, c'est en Asie aussi il y a encore des vrais fléaux, puis en Amérique du Sud aussi. Donc il y a des résistances qui apparaissent, il va falloir développer de nouveaux traitements. Donc beaucoup de travaux sont faits sur des traitements.
Et au niveau des candidats vaccins, il y en a qui sont plus prometteurs ou plus pour arriver plus rapidement que d'autres.
Il y en a un déjà qui est prêt mais qui est efficace à 30%, ça ne suffit pas à éradiquer. Il y en a un autre qui arrive qui est à 70%, qui est quasiment prêt mais on pense qu'il ne sera pas non plus suffisant. Les vrais espoirs, c'est dans la trentaine d'autres qui pourraient atteindre ceux qu'ils développent. On a rencontré sont évidemment, ils y croient. C'est la foi qui permettrait de soulever cette montagne. Sur le terrain, il y a la prudence des experts qui suivent le palu depuis des décennies et qui disent que c'est quand même une des maladies les plus complexes contre lesquelles il faut lutter et une des plus mortelles. Mais force est de constater que depuis 20 ans, il y a eu, on est passé de 800 000 morts à 400 000
morts. On se rend compte que ça touche tout le monde et que ça concerne tout le monde. Le palu, combat sans répit ou espoir fou de l'éradication. Enquête très intéressante et très complète à lire dans ce numéro de septembre d'Epsilon, dont nous avons évidemment quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, autour de la question comment la science infusée se diffuse, on va décoller maintenant avec Science et Avenir et la Recherche, qui consacre sa une et son dossier à l'exploration de l'espace, comment concevoir un vaisseau antimatière, aller plus vite que la lumière et qui sait atteindre même les exoplanètes. Entre science et science-fiction, on s'interroge à l'écoute de Clark Twain sur RFI, I Wanna Fly High, like Richard Branson. Clark Twain, I Wanna Fly High sur RFI. Mais pour voler toujours plus haut dans l'espace, Philippe Pageot, il va nous falloir de nouveaux modes de propulsion adaptés au voyage interstellaire. C'est le dossier et c'est la une de Science et Avenir de ce mois de septembre.
Oui, à la fois on voulait vous faire rêver un petit peu et aussi remettre un peu les pieds sur terre, parce que quand même... Il faut reconnaître que ce n'est pas tout de suite qu'on va aller voir les tutoyer les étoiles à côté. On parlait des espoirs dans le palu. J'ai plus d'espoir dans l'éradication du palu que dans le fait qu'on aille voir les étoiles à côté, en tout cas d'ici quelques siècles.
C'est ça, il y a du boulot.
Alors, voilà, quelques ordres de grandeur. D'abord rappeler que la propulsion, en fait, depuis un siècle, en fait, elle est très simple. C'est la propulsion chimique. C'est ce qu'on utilise. Mm-hmm. C'est ce que toutes les fusées ont utilisé jusqu'ici pour aller.
Celle de la NASA, des Russes, comme celle d'Elon Musk.
D'Elon Musk, voilà, c'est la propulsion chimique. Voilà, on fait brûler effectivement une réaction chimique et la poussée fait qu'on part. Alors, le problème, c'est que ça, c'est extrêmement lent. C'est extrêmement peu efficace. Enfin, ça a quand même permis d'aller voir jusqu'aux planètes extérieures. Hein. Le système solaire quand même été exploré, hein. Mais c'est limité. Pour donner un ordre de grandeur, Voyager et les sondes qui ont été envoyées dans les années 70, qui ont maintenant quitté le système solaire, donc par exemple Voyager 2 qui est la plus lointaine, elle a une vitesse aujourd'hui de 15 km par seconde, donc ça veut dire en gros 55 000 km/h. Voilà, donc c'est à peu près les vitesses maximum qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc ça paraît énorme, mais en fait, on se rend compte que ça ne suffit pas du tout. Bah, tout simplement, en ce moment-là, cette sonde, elle a quitté le système solaire et tous ses congénères aussi, Pioneer, les autres Voyager. Elles sont dans une sorte de no man's land entre la fin du système solaire et le système solaire suivant, dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Et elles vont y rester pendant des dizaines de milliers d'années. Pendant des dizaines de milliers d'années, à leur petite vitesse, elles vont avancer comme ça dans cette espèce de no man's land et dans éventuellement, je sais pas, 40 000 ans, 60 000 ans, effectivement.
Peut-être qu'elles y arriveront quelque part.
Elles ne visent pas un système en particulier, mais elles seront à proximité. Donc c'est pas du tout suffisant. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'ordre de grandeur. Donc après, il faut imaginer des choses pour aller plus vite. Alors, pour aller plus vite, il y a plein d'idées. Hein.
Des idées parfois un peu folles, hein, quand même.
Alors, il y a des idées plus classiques, simplement utiliser l'énergie nucléaire, que ce soit de la fission ou de la fusion. Alors, même si la fission, on sait la faire sur Terre, dans l'espace, c'est plus compliqué. La fusion, on ne sait pas trop la faire sur Terre. Il y a des espèces de gros machins, là, ITER, qui essaient à Cadarache, qui essaient de faire ça, déjà, pour avoir une source d'énergie pour nous.
Désespérément, oui.
Ce serait déjà bien. Et puis, il y a aussi un moyen un peu fou qu'on appelle l'antimatière, en fait, ça on imagine tout simplement.
Des vaisseaux d'antimatière.
Alors en fait, oui, c'est par exemple le vaisseau d'Avatar. Dans Avatar, le vaisseau qui est utilisé pour aller...
Dans le film de James Cameron.
Voilà, dans le film de James Cameron, ça utilise de l'antimatière, mais pas tout simplement parce que c'est un moyen très efficace. En fait, quand vous avez une particule, une antiparticule, notre matière-antimatière qui se rencontre, elle s'annihile et toute la masse, en fait, de cette annihilation est transformée en énergie. Et donc après, c'est le principe habituel de la poussée qui permet d'aller vite.
Enfin, on n'en est pas encore là, hein, à fabriquer des vaisseaux propulsés à
l'antimatière. Non, parce qu'en fait, il faudrait des grandes quantités d'antimatière. Antimatière, on sait en fabriquer sur Terre, on le fabrique dans un accélérateur, mais on en fabrique des nanogrammes. Dans James Cameron, il en faudrait des milliers de tonnes.
J'ai lu d'ailleurs dans cette enquête de Sciences et Avenir, c'est Roland Lehoucq hein, qui précise que le vaisseau d'Avatar aurait besoin de 150 000 ans de consommation énergétique actuelle.
Oui.
Ouais, c'est hallucinant. Quoi.
Voilà, exactement. C'est un autre facteur, un autre ordre de grandeur qui fait qu'on se dit que ça ne va pas être pour tout de suite, parce qu'évidemment, il faudra rassembler énormément d'énergie et on n'y arrivera pas. Pour donner une idée aussi, c'est pareil, 1000 tonnes de charge utile qu'on voulait envoyer à 10% de la vitesse de la lumière, donc même pas la vitesse de la lumière, mais 10%, c'est déjà pas mal, hein, c'est une petite vitesse, mais ça permet quand même d'aller imaginons, dans l'étoile la plus proche en une quarantaine d'années à peu près. Eh bien, ça représente l'énergie consommée par l'humanité en une année. Et 1000 tonnes, c'est pas très gros. Hein. C'est pas très gros.
Bon, on n'est pas prêt d'envoyer grand-chose très loin dans l'espace, non. Mais on y réfléchit,
voilà.
On y pense.
Alors, il y a encore plus fou. Il y a encore plus fou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le warp drive. Donc là, on imagine, en fait, on utilise les équations d'Einstein, donc la relativité générale. Mm-hmm. Et là, vous imaginez, en fait, vous modifiez l'espace-temps devant vous et vous le modifiez derrière vous. En fait, vous rapprochez, vous tirez comme si vous tiriez sur un élastique devant vous.
D'accord.
Et en fait, au lieu que la distance, enfin d'aller plus vite, vous rapprochez la distance de ce qui est devant vous. Et ça, c'est très ça va très loin dans l'imagination, mais ça fonctionne dans les équations. Mais pour ça, il faudrait de la matière. Alors, soit de la matière, l'énergie négative, et ça, on ne sait pas le faire. Et très récemment, il y a un physicien allemand qui s'appelle Erik Lenz qui a imaginé une solution sans énergie négative en imaginant un plasma très dense de particules. Voilà. Mais là, il faudrait...
On arriver à moduler, à tirer la courbure de l'espace-temps, voilà, jusqu'à nous.
Mais...
Ce qui nous amène d'ailleurs, ouais, Philippe Pageot, puisque là, c'était le dossier de Science et Avenir, à la recherche, hein, trimestrielle, qui est aussi en kiosque et qui lui fait son dossier principal sur le temps et l'espace.
Oui, alors, mais là effectivement, c'est vu sur d'autres aspects. On regarde la perception du temps, la perception du temps et de l'espace. Mais on parle également un petit peu de voyage interstellaire. Il y a Roland Lehoucq, d'ailleurs, qui nous a aussi écrit un article là-dessus, sur la manière de voyager dans l'espace et sur la perception du temps qui est modifiée, encore par la relativité. Cette fois, c'est la relativité restreinte, n'est-ce pas ? Et ce qui fait qu'en théorie, si on pouvait, imaginons que tout ce qu'on a dit, la marche, et qu'on puisse voyager extrêmement loin, extrêmement vite à la vitesse de la lumière, eh bien, on pourrait atteindre les étoiles, faire un voyage même très très loin, aller à la galaxie d'Andromède et revenir. Ça prendrait, pour celui qui voyage, une trentaine d'années, mais pour ceux qui sont restés sur Terre, ça prendrait de l'ordre de 2 millions d'années à peu près.
D'accord, là, voilà, vous nous embrouillez encore plus. On est plus ici, on est dans la science ou dans la science-fiction.
Alors ça, c'est la science, mais là, on a imaginé effectivement qu'on puisse voyager.
Ce qui se passerait, entre ceux qui restent sur Terre et celui qui pourrait, en quelques dizaines d'années,
la contraction des temps,
voyager dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup, Philippe Pageot, de nous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Donc, avec la recherche trimestrielle, toujours en kiosque, avec Science et Avenir de ce mois de septembre. Nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires de ces deux magazines à vous offrir. Vous qui avez, on le sait bien, la tête dans les étoiles, comme un certain Soprano sur RFI, des Comores jusqu'à Marseille, Soprano s'est fait chasseur d'étoiles.
Je les vois plus dans tes yeux, je les vois plus dans les cieux. Trop de nuages gris, le monde a perdu de son bleu. Les chemins vers les rêves ne sont plus éclairés. Les chemins vers la paix sont dans l'obscurité. Je ne les vois plus filer, donc je n'entends plus de souhaits. Ici la nuit, le troupeau ne voit plus son berger. Ici elles sont factices, ou on leur marche dessus sur un boulevard. J'ai besoin de les revoir, donc je pars. Je mets les voiles,
Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je sais pas ce qui m'attend. L'espace est tellement vaste. Mais je prendrai le temps pour visiter les astres. M'inspirer des planètes qui ne connaissent que la paix. Faire mes plans sur une comète que j'aurai enfin attrapé. Un selfie avec Marseille, les deux pieds sur la lune. Je ferai des roues arrière sur les anneaux de Saturne. Des pluies de météores me blesseront peut-être. Mais ça n'a pas de prix de ramener des étoiles sur Terre. Donc je pars, je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Oui, je pars, je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Ah, le phénix part chasser plus loin. Ses étoiles qu'on disparu. Oui, je pars chasser plus loin. Ces étoiles qu'on ne voit plus. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Oui, je pars. Je mets les voiles. Je pars à la chasse aux étoiles. Je pars à la chasse aux
Soprano à la chasse aux étoiles sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans ciel et espace. Philippe Hénarejos, vous êtes parti à la chasse de notre étoile, la nouvelle exploration du système solaire. C'est votre dossier de rentrée. Vous avez mené l'enquête sur d'autres mondes habitables.
Oui, en fait, on a essayé de prendre un petit peu de recul sur l'exploration du système solaire par des sondes spatiales, hein, pas par des télescopes. Mm-hmm. Ça, c'est constant depuis des siècles. Mais depuis, en gros, les années 60, beaucoup de sondes sont parties visiter les autres planètes. Et on s'est dit, ben, où est-ce qu'on en est ? Et on a mené l'enquête. Et en fait, effectivement, il y a eu... ce qu'on pourrait appeler des 30 glorieuses entre 1960 et 1990, où grosso modo, on a découvert les autres mondes, on s'en est approché. C'était les sondes Voyager qui passaient sur les planètes géantes, qui passaient sur Uranus et Neptune. Bon, Magellan qui découvrait Vénus, Viking qui explorait Mars pour la première fois. Et puis, bon, évidemment, on a commencé dans cette période-là déjà à explorer plus en profondeur certains mondes, on passe notamment à Mars. Mais aujourd'hui, finalement, où en est-on ? Et on s'aperçoit que dans les projets, et il y en a beaucoup pour la décennie qui vient, eh bien, il y a un nouveau cap qui est la quête des mondes habitables. Alors évidemment, le seul monde habitable dans le système solaire, c'est la Terre.
On est d'accord. Hein.
Mais quand même, il y a des mondes qui sont soit des satellites de Jupiter, soit Titan autour de Saturne, soit même Mars, qui pourraient quand même nous en apprendre beaucoup sur notre propre planète. Et il y a des missions très ambitieuses qui sont sur le départ, ou en tout cas en projet déjà, vers ces mondes-là. Et nous avons fait le point dans un dossier de... Je crois qu'on a éclaté le format, on a fait 24 pages là-dessus sur qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce que ça va nous rapporter. Effectivement, sur des mondes de glaciers comme Europe ou Encelade ou Titan, on suspecte beaucoup d'eau sous la croûte glacée. Mm-hmm. Et donc, est-ce que quand il y a de l'eau sous forme liquide, la vie apparaît? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué que ça ? Allez le voir sur ces mondes-là, qui sont encore vierges, qui n'ont pas évolué comme la Terre, permettrait peut-être de répondre aussi à la question de l'apparition de la vie sur Terre.
Aïe, l'exploration jusqu'aux confins du système solaire. On n'a pas fini en tout cas. Pour en savoir plus, parce que ça fait rêver, c'est à lire dans Ciel et Espace de cet automne, Philippe Hénarejos, où vous nous faites aussi découvrir, c'est un autre article, une base totalement oublié de l'aventure spatiale française, la base d'Amaguir en Algérie, fondée en 1947 dans le Sahara algérien, donc bien avant Kourou. Oublié, Philippe Hénarejos, et un peu pour cause finalement, parce que les débuts de l'aventure spatiale sont un peu troubles, on va dire.
Mais comme les débuts de l'aventure spatiale dans tous les pays, comme que ce soit la Russie ou les États-Unis. Et disons qu'on a traité ce sujet parce que on a identifié un auteur, Michel Beriti, qui a écrit avec Jérôme Lamy et Élise Paré un livre qui s'appelle « La base spatiale d'Amaguir ». On lui a demandé un article là-dessus, c'est donc un article d'histoire sur les débuts et puis jusqu'à la fin de cette base spatiale, d'où sont parties les premières fusées françaises vers l'espace. C'était avant l'Europe spatiale, c'était à l'époque du général de Gaulle, c'est à l'époque où la France voulait compter parmi le concert des nations, et c'est de cette base-là qu'est parti le premier satellite en orbite français. Et je rappelle qu'à l'époque, c'était la troisième nation à envoyer un satellite, après l'URSS et après les États-Unis. Et donc, cette histoire, elle est fascinante parce que, évidemment, il y a des heures de gloire avec cette réussite dont je viens de parler, cette réussite technique, mais il y a des côtés un peu plus sombres, parce que d'abord, c'est aussi l'histoire coloniale de la France.
Bien sûr, en
Algérie. Et pas que, parce que pour atteindre ce niveau d'excellence en termes d'astronautique, eh bien, il a fallu, comme les Américains et comme les Russes, avoir recours au savoir-faire du Troisième Reich. Donc la France a utilisé effectivement des ingénieurs qui avaient mis au point les V2 de von Braun et des nazis pour faire ces premières fusées. Donc cette histoire, elle est fascinante parce que c'est un endroit qui, sans doute, qui n'a plus de vocation spatiale aujourd'hui, mais qui a été les grandes heures du spatial français, mais à quel prix, puisqu'il y a une histoire qui est duale, en fait. Et c'est un article qui est vraiment passionnant.
Et qui est passionnant pour revisiter effectivement toute l'aventure spatiale partout, en France comme ailleurs, pour en savoir plus. Donc sur cette base oubliée d'Amaguir, c'est à lire dans ce numéro de Ciel et Espace, dont nous avons bien sûr un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Alors, une base d'Amaguir oubliée, mais non pas par tout le monde. La preuve tout de suite avec ce petit extrait, un morceau qu'on vous passe en exclusivité, un morceau du groupe Tchèque Cora et les Mechanics sur RFI. Amaguir, oui, drôle de morceau du groupe tchèque Koran de Mechanics. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, chers amis auditeurs, pour soutenir des projets de recherche innovants en santé publique au Sud, j'avais envie de vous signaler l'ouverture d'un tout nouveau prix de santé publique, le prix Henri Boulard, initié par la fondation Biocodex Microbiota, pour récompenser des initiatives locales en lien avec le microbiote intestinal, susceptibles d'avoir un impact significatif sur la santé des populations. Alors, quels que soient ces projets, la promotion de bonnes pratiques nutritionnelle, ou bien des projets d'assainissement d'eau usée ou des campagnes de réduction de la mortalité infantile liée aux diarrhées infectieuses. En tout cas, vous pouvez concourir. Si vous êtes un professionnel de santé engagé au Sud, vivant au Sud, avec un projet au Sud, deux prix exclusivement réservés aux professionnels de santé seront décernés chaque année. Cette année, c'est la première, donc ouvert avec une dotation de 10 000 euros chacun. Donc chaque prix de 10 000 euros. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 30 septembre de cette année, donc vous avez encore un mois pour concourir au prix de santé publique Henri Boulard. Le lien est évidemment sur notre page, c'est évidemment des projets en lien avec le microbiote intestinal. Avis aux professionnels de santé, donc à vous, chers amis auditeurs, ou à votre entourage. Je rappelle que la date limite de dépôt des candidatures est le 30 septembre 2021 et que vous pouvez aussi googler le prix de la fondation Henri Boulard, prix de santé publique Henri Boulard.
Autour de la question... Comment la science infuse ? Caroline Lachowski.
Autour de la question comment la science infuse, bienvenue autour de notre second tour de table, j'ai envie de dire en votre compagnie, Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour tout le monde.
Bonjour Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver en cette rentrée autour de la question comment la science infuse. En ce mois de septembre, on va commencer par s'immerger avec vous, Thomas Cavalier-Foll, dans Science et Vie, à l'écoute des sons du vivant. Comment la bioacoustique révolutionne l'étude des écosystèmes. On s'interroge en écoutant le pionnier de la bioacoustique et du field recording, Benny Krause, dans une variation musicale autour des chants de baleines et autres cétacés, Cetacean Variations, Benny Krause et Country Joe McDonald sur RFI. Petite variation musicale autour des sons et des chants de cétacés enregistrés par Benny Krause pour nous mettre justement, pour nous donner envie de nous mettre à l'écoute des sons du vivant. Ça, c'est le dossier de Science et Vie, Thomas Cavalier-Foll. Pourquoi et comment, finalement, on peut mieux comprendre, surveiller aussi tout le vivant grâce aux sons que tout le vivant émet tout le temps.
Effectivement, c'est assez étonnant de se rendre compte que le monde sonore a été longtemps un peu oublié par les scientifiques. Enfin, dans les années 50-60, il y avait des bioacousticiens, mais c'était l'œuvre encore de quelques passionnés ornithologues, généralement.
Mmh. Et spécialistes des oiseaux. Enfin.
Exactement, oui. Et en fait, c'est assez étonnant qu'aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de ce son. On arrive même à un peu comprendre ce que disent les bêtes. Mmh. Et ça, c'est assez étonnant qu'on ait mis tant de temps. C'est aussi, l'humain est une espèce majoritairement visuelle.
On est nous beaucoup plus visuels. Enfin, mais si on a les oreilles ouvertes tout le temps,
exactement.
On est beaucoup plus visuels que
sonores. Nous avons 150 millions de cellules rétiniennes, alors que nous n'avons que 30 000 cellules auditives. Et il y avait aussi, en fait, un problème de technologie. Mm-hmm. C'est que pour étudier un son, le comprendre, il faut pouvoir l'enregistrer, il faut pouvoir le mettre en sonogramme. Vous remarquez que c'est cocasse, d'ailleurs, qu'il faut encore voir le son pour l'étudier.
C'est vrai, et que nous, quand on fait du montage en radio, on voit elles sont en même temps qu'on l'écoute, absolument.
Et en fait, ça, c'est d'enregistreurs, on le dit pas assez, mais c'est quand même une invention assez récente. C'est Nicolas Mathevon, qui est chercheur CNRS à l'Université de Saint-Étienne, qui a écrit le bouquin « Les animaux parlent », d'ailleurs, mm-hmm. qui était super, nous a raconté que lui, quand il a commencé ses travaux, en fait, ça mettait, entre l'enregistrement d'un son d'oiseau, par exemple, et le sonogramme, ça mettait 30 minutes, quoi. Maintenant, c'est instantané. Et donc, on peut non seulement... Et donc, il y a plein d'équipes à travers le monde qui commencent à échantillonner les sons et plein de résultats tombent. Parce qu'une fois qu'on a le son d'un animal, on peut le jouer à d'autres animaux et étudier leur réaction. Mais on peut aussi le couper, c'est-à-dire essayer d'isoler certaines phrases. On peut le rendre plus aigu, plus grave, le rendre plus rapide. Alors, bref, les possibilités d'étude de la communication animal-sonore sont quasiment infini. Et les résultats sont absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, pas toutes les espèces utilisent le son, mais une grande majorité, par exemple chez les tétrapodes, je crois, les vertébrés qui ont quatre membres, c'est plus de 70%, quelque chose qui utilise le son.
Qui utilisent le son pour des petits, quoi, des gens, des crustacés et des...
Les vertébrés à quatre membres.
D'accord,
donc nous, les oiseaux, tout
d'accord,
ça.
Qui utilisent le son.
Qui utilisent le son, oui. Et ce son-là, enfin les cris, les pépiements, les croissements sont utilisés, en fait, pour absolument tout. Pour se répartir le territoire, pour trouver des partenaires sexuels, pour localiser de la nourriture et dire à ses congénères qu'il y a de la nourriture. On en donne bien sûr des exemples à foison dans ce dossier-là.
Le monde parle et tout le vivant parle. On a fait plusieurs émissions là-dessus. J'ai des souvenirs de clics de cachalot avec François Sarano et autres chants d'oiseaux. Enfin, c'est extraordinaire.
Qui se coordonnent pour chasser,
c'est
bien
ça.
Sûr.
Et qui sont beaucoup plus importants qu'on l'imaginait.
Oui.
Mais il y a aussi dans cette bioacoustique une manière de voir si... Alors, on peut souffrir de pollution sonore, mais de voir si le monde ou les écosystèmes se porte bien. Il y a
ça
aussi,
on quitte presque la bioacoustique qui est, elle, une part de l'éthologie pour apprendre le comportement animal, pour l'écoacoustique qui est, elle, une part de l'écologie. Ça. Et là, on n'est plus à échantillonner le son d'un animal en particulier, mais on va écouter une forêt, un marais ou une savane, par exemple. Et ça, c'est absolument extraordinaire aussi. C'est que... En fait, c'est un reflet du coup de l'état de l'écosystème. Et les éco-acousticiens, c'est une nouvelle discipline, ils mettent donc des enregistreurs en différents points d'une forêt. Par exemple, nous, on a interrogé Jérôme Sueur du Muséum national d'histoire naturelle qui bosse sur une forêt guyanaise, une forêt du Jura. Et ils mettent donc des enregistreurs un peu partout. Et chaque 15 minutes, ils enregistrent une minute. Et ça, le but, c'est de faire 15 ans d'études pour voir comment le son de la forêt évolue en fonction du changement climatique.
Comme une photographie sonore, des photographies. Exactement. Photographie sonore, c'est ça,
une photographie sonore. On en donne un exemple dans notre magazine. On a 24 heures de l'orchestre guyanais et c'est absolument formidable de voir arriver le cœur du matin fait d'oiseaux, comme on l'appelle, puis aux heures les plus chaudes, les oiseaux se taisent pour laisser la place aux insectes. C'est absolument formidable et c'est un vrai reflet de comment l'écosystème va, parce qu'après ça, ils mettent toutes ces données, parce que c'est 15 ans. Jérôme Sueur nous disait qu'il avait 36 000 heures d'enregistrement. C'est le début du projet et donc ils mettent tout ça avec de l'intelligence artificielle pour voir les extinctions d'espèces, les pullulations, les remplacements et avoir ainsi une nouvelle donnée pour protéger les écosystèmes.
Donc à écouter cet orchestre guyanais et à lire bien sûr dans Science et Vie de ce mois de septembre, dont nous avons bien sûr quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs. Donc nous, on est très fans de tout ce qui est son, évidemment, à la radio. Alors vous aurez peut-être la chance, vous aussi, chers amis auditeurs, de recevoir un exemplaire de Science et Vie, même si vous le pensez, que vous pensez que vous ne le méritez peut-être pas ou que vous n'y croyez pas, vous êtes peut-être victime de quoi ? Du syndrome d'imposture. On en parle tout de suite avec vous, Cécile Estienne, dans Cerveau et Psycho. Mais pour en finir tout de suite avec le syndrome d'imposture, on commence par reprendre confiance en nous avec Patrick Gomis sur RFI et Confiance. Confiance. Patrick Gomis sur RFI entre Guinée-Bissau, France et Côte d'Ivoire. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, comment en finir, Cécile Estienne de Cerveau et Psycho, avec ce syndrome d'imposture qui touche de nombreuses personnes et principalement des femmes. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ce syndrome d'imposture, Cécile ?
Eh bien, en fait, le dossier de ce numéro de septembre, de ce numéro de rentrée de Cerveau et Psycho, est consacré à comment surmonter ces blocages. Parce qu'on se disait qu'après les vacances, quand on est un peu reposé, qu'on a retrouvé de l'énergie, c'est le bon moment de surmonter ces blocages, parce qu'on en a tous. Voilà. Mais on a eu envie de s'attarder spécifiquement aussi sur le syndrome d'imposture. Donc, on a demandé à la psychothérapeute Anne de Montarlo et à la journaliste Elisabeth Kadoche d'écrire un article pour nous, parce qu'elles viennent de publier un livre aux arènes, sur ce syndrome d'imposture qui n'a de nom que depuis, normalement, 1978. Ce sont deux psychologues américaines qui ont donné ce nom à quelque chose qu'on connaît tous, je crois, ou pratiquement tous. Voilà, c'est ce sentiment qu'on n'est pas à notre place, en fait. Voilà, on n'est pas légitime là où on est, et qu'on attribue le succès à la chance, ou on ne mérite pas, en tout cas, tout le bien qui nous arrive. Et surtout, on a la peur panique d'être démasqué. Et donc, c'est ça,
de ne pas être à la hauteur, de pas être au niveau.
De ne pas être au niveau. Alors, ça a un lien avec la confiance en soi, voilà, évidemment, mais ça ne se réduit pas à la confiance en soi. C'est une dimension supplémentaire, parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, si au retour des vacances, parce qu'il se sent bien mieux, il arrive à se botter les fesses et à beaucoup travailler, ouais, et qu'il réussit, il va quand même être content de lui, il ne va pas se sentir illégitime. Tandis que quelqu'un qui souffre vraiment du syndrome d'imposture va lui continuer à penser que ce n'est pas dû à son travail, que c'est la chance qui a joué. Il se sentira toujours illégitime. Cette petite différence qui entre. Par ailleurs, ce n'est pas une pathologie.
Non, ce n'est pas une pathologie, mais voilà pourquoi aussi ça concerne beaucoup les femmes, parce que souvent, elles considèrent que. Enfin, voilà, la société considère que peut-être qu'un homme serait mieux à leur place, ou que. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là aussi, d'injonction, non seulement qu'on se donne à soi-même, mais que la société nous renvoie.
Absolument. En fait, on ne se débarrasse probablement pas comme ça de millénaires de patriarcat, n'est-ce pas ? Et donc, si aujourd'hui, évidemment, les femmes, chez nous en tout cas, ont tout à fait accès à la sphère professionnelle et à la sphère publique, elles ont été très longtemps cantonnées à la sphère privée et peut-être qu'elles ont intériorisé, ou pas peut-être, sûrement, beaucoup d'entre nous avons intériorisé tous les stéréotypes qui sont liés à notre condition de femme. Voilà.
Et c'est pareil, ce syndrome d'imposture, il peut aussi toucher des couches sociales plus défavorisées, ou des autodidactes,
tout le monde.
Ou des gens du Sud qui se disent « Hey, voilà, tiens, est-ce que j'ai le droit, moi aussi ?»
Voilà, absolument. Alors, souvent, le syndrome d'imposture, ça vient de l'enfance. Alors là, c'est plutôt lié à l'estime de soi. Évidemment, c'est lié à papa, maman pour changer. C'est toujours leur faute,
bien
n'est-ce
sûr,
pas? Parce
que ils vous ont pas assez.
Ils vous ont pas assez sécurisé, ou ils ont vous envoyé des messages qui n'étaient pas, qui étaient difficiles, du genre, heureusement que t'es jolie, parce que côté cerveau, c'est pas top, ou l'inverse d'ailleurs. Donc, heureusement que tu travailles bien à l'école, parce que sinon le reste, ce genre de choses. Et puis les échecs qu'on rencontre avec les professeurs, avec les amis, etc. Mais ça émerge en général à l'adolescence et à l'entrée dans la vie adulte, parce que c'est à ce moment-là que les nouvelles responsabilités, nouvel environnement de travail et d'amis fait qu'on se sent un peu déstabilisé, et c'est là que ça peut devenir, alors là pour le coup, très handicapant, même si ce n'est pas une maladie. Voilà, donc parce que
Mais on peut s'en sortir. C'est là qu'il faut lire cerveau et psycho, même si on n'a plus beaucoup le temps de le dire, parce qu'on peut s'en sortir. Quand on en prend conscience, on peut s'en sortir.
Individuellement et collectivement. Dès qu'on en prend conscience, on peut s'en sortir. On peut se faire aider, n'hésitez pas. Comptez sur votre entourage, n'hésitez pas. Ou alors, renversez carrément le syndrome d'imposture et prenez à votre compte le mantra des Américains, fake it till you make it, c'est-à-dire faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez.
Ah, merci pour le conseil, chère Cécile Estienne. Pour en finir avec le syndrome d'imposture, à lire dans Cerveau et Psycho de ce mois de septembre, où l'on pourra aussi découvrir plein d'articles très intéressants. Nous avons évidemment un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, et j'espère que vous le gagnerez, que vous aurez assez confiance en vous pour le gagner. Vous pourrez gagner donc Cerveau et Psycho de Cécile Estienne. Merci Cécile, merci Thomas Cavaillé-Foll d'avoir été en direct avec nous, merci à Philippe Hénaret, Philippe Pajot et Hervé Poirier qui nous ont quittés et qui nous ont laissé aussi chacun des exemplaires de leur magazine pour vous, chers amis auditeurs et lecteurs du meilleur de la presse scientifique. On se retrouve le mois prochain pour une autre infusion et diffusion de science. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Merci d'être là, fidèle au poste de la Radio Mondiale. Restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations. Radio Food.